France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. Entre 1894 et 1896, Marcel Proust et Reynaldo Hahn, dans leurs 20 ans, vont connaître une histoire sentimentale qui se transformera en une amitié indéfectible. Chacun travaille à son œuvre, remet, dialogue, converse, partage avec l'autre et, inévitablement, l'influence. À l'époque, le compositeur est plus connu que l'écrivain, son cadet de 3 ans. Une étude très précise et passionnante, écrite à 6 mains, retrace le contexte de cette rencontre entre Hahn et Proust et indique comment les esthétiques des deux artistes ont pu s'influencer ou diverger. À la faveur de documents inédits, Philippe Blais, Jean-Christophe Branger et Luc Fraisse, mes invités, apportent un regard nouveau sur ces deux artistes, leurs travaux, leurs accords et désaccords artistiques. Philippe Blais, Jean-Christophe Branger, Luc Fraisse, Marcel Proust et Reynaldo Hahn, une création à 4 mains chez Classique Garnier.
Donc, ce sera par un clair jour d'été, le grand soleil, complice de ma joie, fera parmi le satin et la soie plus belle encore votre chère beauté. Le ciel tout bleu comme une haute tente frissonnera somptueux à l'oubli sur nos deux fronts heureux qu'auront pâli l'émotion du bonheur et l'attente. Et quand le soir viendra, l'air sera doux qui se jouera caressant dans vos voix. Bienveillamment souriront aux époux.
François Leroux, bariton, accompagné au piano par Jeff Cohen, c'était tous deux extraits des chansons grises de Reynaldo Hahn. Alors je vais prendre mon élan. Il y a Philippe Blais et Jean-Christophe Branger. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Vous êtes musicologue et bonjour à Luc Fraisse. Vous êtes professeur d'université. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes mis à tous les trois, donc à 6 mains, j'ai dit en introduction, pour cette étude vraiment très intéressante et très précise sur cette passion et cette amitié entre les jeunes Reynaldo Hahn et Marcel Proust. Alors Philippe Blais, vous qui êtes le grand spécialiste de Reynaldo Hahn, je sais que vous préparez une monographie
pour Fayard.
Qu'on attend avec impatience. Alors, extrait donc des chansons grises de Reynaldo Hahn. À l'époque, ce cycle de mélodies avait déjà été entendu quand Reynaldo Hahn et Marcel Proust se rencontrent en 1894.
Voilà, le cycle apparu chez Eugel en 1893.
D'accord. Oui. Donc, Reynaldo Hahn était déjà quand même connu, très jeune, donc du coup, il avait une petite vingtaine d'années. Oui. Proust était encore un étudiant, en fait.
Proust était encore un étudiant à la Sorbonne, en lettres et philosophie, justement. Puisqu'il passera sa licence de lettres au moment où il connaît déjà Reynaldo Hahn.
Et alors, dans quelles circonstances ces deux jeunes gens se sont-ils rencontrés ?
Évidemment, dans un des grands salons de l'époque, celui de Madeleine Lemaire.
Qui était-elle alors ?
Alors, donc, c'est une peintre, une peintre spécialisée dans les fleurs, mais aussi dans les portraits. Mais qui peignait aussi des paysages. Mais bon, on disait que c'est elle qui avait créer le plus de roses après Dieu.
Et donc, elle recevait dans son atelier-salon, je crois, c'est ça, le tout Paris
mondain et
artistique.
Artistique et politique aussi.
Ouais.
Et parfois, quelques têtes couronnées étrangères lorsqu'elles étaient de passage.
Et donc, c'est donc à la faveur de ces mardis, je crois.
Donc,
c'est ça,
un mardi du mois de mai 1894 qui était consacré à Robert de Montesquieu et à son cycle Les Chauves-souris, que Marcel Proust et Reynaldo Hahn se sont rencontrés donc chez Madeleine Lemaire. Ensuite, elle a eu la bonne idée de les réinviter ensemble dans son château de Réveillon en Seine-et-Marne à l'automne suivant. Et donc, c'est vraiment là qu'ils ont pu, disons, approfondir leur amitié, faire plus amplement connaissance et surtout échanger sur leur goût littéraire et leurs aspirations esthétiques.
Mmh. Luc Fraisse, justement, puisqu'on parle de goût littéraire, à l'époque, Proust était donc, on l'a dit, tout jeune. Est-ce qu'il avait encore rien écrit de définitif, mais il était, je crois, quand même en train d'écrire quelque chose.
Oui, c'était une période d'effervescence. Il était en train de composer ce recueil Disparate qui paraîtra en 1896 chez Calmann Lévy, Les plaisirs et les jours, et on peut percevoir le reflet de l'influence de Reynaldo Hahn sur plusieurs de ses écrits. Il essayait de se faire connaître dans différentes revues, et ce n'est pas le moindre intérêt de ce rapport de voir que ces écrits disparates trouvent une cohérence quand on les aborde sous l'angle de Reynaldo Hahn. Mmh. C'est tout à fait intéressant.
Et est-ce que, comme souvent chez Proust, sa vie personnelle enrichit, nourrit sa création littéraire? Est-ce que justement on peut retrouver trace de certains événements de l'époque dans ses écrits de l'époque?
Bien sûr. Souvent c'est différé, transposé, mais il est certain que Proust est vraiment un écrivain de la belle époque et beaucoup plus dans cette période, puisque la caractéristique de cette première relation avec Reynaldo Hahn, c'est que normalement ces deux personnalités sont très contrastées. Un psychologue dirait certainement que Reynaldo Hahn est un extraverti et Proust, en partie à cause de sa santé, deviendra un écrivain reclus. Mais il est certain qu'à cette époque-là, leur création se fait en plein jour. Dans le monde, cela a été rappelé, et c'est pour Reynaldo Hahn, c'est un mode d'existence tout à fait normal, mais pour Proust, c'est un moment assez unique dans sa vie.
Mmh. Philippe Blais, vous expliquez que Reynaldo Hahn, qui était l'aîné hein, de 3 ans, je crois, c'est ça ?
De Proust,
avait un ascendant sur le jeune Marcel Proust, un peu dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine musical.
C'est-à-dire que Proust a été impressionné par la culture littéraire de Reynaldo Hahn. Il n'avait pas l'habitude de rencontrer de jeunes musiciens ou de jeunes compositeurs qui avaient une telle culture littéraire, picturale, philosophique, historique, théâtrale, parce que Reynaldo Hahn adorait le théâtre et il voyait toutes les pièces de Paris.
Mmh. Oui, c'était un musicien qui sortait beaucoup et qui s'intéressait effectivement à tous les arts.
Ouais. Voilà, d'où le terme d'éclectique que j'avais choisi pour l'ouvrage collectif précédent que j'avais coordonné chez Actes Sud.
Que vous étiez venu présenter à ce micro, d'ailleurs.
Voilà, c'est tout à fait. c'est quelqu'un qui s'intéresse à tous les domaines intellectuels.
Court extrait de L'île du rêve de Reynaldo Hahn, Philippe Blais, puisque c'est un document que vous nous avez apporté.
Oui.
Quels en sont les interprètes alors?
Donc c'est le ténor Antoine Normand et l'orchestre symphonique de Cannes, dirigé par Philippe Binder, enregistré sur l'île de Tahiti en avril 2000, lorsque l'œuvre a été remontée pour la première fois.
Alors l'île de Tahiti, il faut peut-être préciser à nos auditeurs qui ne connaissent pas le sujet de L'île du rêve de Reynaldo Hahn, c'est un texte de Pierre Loti.
Voilà, c'est tiré du roman de Loti qui s'appelle Le mariage de Loti, qui a été son premier grand grand best-seller dans les années 1880 et qui a été adapté à la scène avec l'accord de Loti par Hartmann et Alexandre.
Ah, et qui sera créé donc à l'Opéra Comique en
1898, donc plus tard par rapport à la liaison entre Anne et Proust.
Mais donc à cette époque, Anne travaille donc à cet opéra, donc oui. Enfin, c'est Idylle polynésienne, c'est ça?
Idylle polynésienne, donc voilà. il achève l'orchestration. Et donc au château de Réveillon, donc où il va séjourner avec Marcel Proust, chez Madeleine Nemer, justement, il a apporté son manuscrit et il travaille à l'orchestration devant Proust, puisqu'il a noté sur le manuscrit la présence de Proust. Mmh.
Donc l'un et l'autre, invités par Madeleine Nemer, oui. travaillent à leurs œuvres respectives oui. dans ce château. Alors.
Et Proust d'ailleurs travaillera à une mélomanie de Bouvard et Pécuchet. Il avait déjà écrit une mondanité et en faisant connaissance avec Reynaldo Hahn, il ajoutera une mélomanie où il passera en revue un petit peu tout le milieu musical de l'époque.
Jean-Christophe Branger, on sait que vous êtes grand spécialiste de Massenet, vous êtes souvent venu parler de ce compositeur à ce micro. Jules Massenet qui était le professeur de Reynaldo Hahn.
Oui, tout à fait, exactement.
Et quelle influence a-t-il eu sur peut-être l'éveil intellectuel, culturel de son élève?
En fait, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Philippe Blais tout à l'heure. Si Hahn a exercé un ascendant sur Proust, on peut dire que Massenet a exercé un ascendant sur Hahn très très fort, par son éclectisme également. C'est quelqu'un qui emmenait ses élèves, donc Hahn était élève de Massenet, et Massenet emmenait ses élèves au Louvre. Il leur ouvrait l'esprit aussi, non seulement bien sûr par des exercices musicaux, mais également en leur demandant de lire, d'aller au théâtre, etc. etc. Donc on peut dire que là, il y a vraiment une influence très très forte de Massenet sur la mentalité de Hahn et son attitude vis-à-vis de la création aussi. Et là, ce qu'on a entendu, hein, l'extrait de L'île du rêve, on sent vraiment l'influence de Massenet dans l'écriture vocale, le charme qui peut se dégager de cette musique.
Le charme et le côté, en fait, pas du tout exotique, j'ai envie de dire, de L'île du rêve, qui est sciemment conçu ainsi, Philippe Blais.
Il y aura également au troisième acte une chanson tahitienne, noté par Pierre Loti et qu'il a transmis à Reynaldo Hahn. Et il construira toute une scène autour d'un chœur tahitien, justement.
Luc Fraisse, quels étaient les rapports de Marcel Proust avec la musique? Quelle était sa... On sait qu'il était évidemment très mélomane, mais est-ce que à ce moment où il côtoie donc quotidiennement Reynaldo Hahn, quelle est sa passion musicale, quelle est sa formation, quelle est sa culture, son intérêt pour la musique?
Alors il y a une formation familiale. Sa grand-mère Adèle Bernstein jouait du piano plusieurs heures par jour. Le reste de sa famille le lui reprochait. Sa mère était une bonne musicienne. J'ai vu une fois chez Charavé il y a fort longtemps la partition de Fidelio annotée par la mère de Proust. Je ne sais pas ce qui est devenu cette partition. Enfin, je l'ai vue. Mm-hmm. Et ensuite, il y avait cette musique en milieu mondain qui vient d'être évoquée. Hein. Mondanité et mélomanie de Bouvard et Pécuchet, ce texte de Les plaisirs et les jours, donne le ton. Par ailleurs, bien sûr, Proust écoutait alors de la musique, notamment dans le salon des Polignac, par exemple, qui était d'ailleurs lui-même un compositeur. Et puis, il y a évidemment des domaines plus austères, c'est-à-dire que Proust se plongeait dans la philosophie de la musique, et notamment cette métaphysique de la musique de Schopenhauer, qui était tellement célèbre qu'on l'avait republiée en plaquette, pour éviter sans doute aux gens de lire les 1500 pages du Monde comme volonté et comme représentation.
Messieurs, j'ai envie de vous demander, votre étude, c'était sur la découverte ou la parution de documents jusque-lors inédits. Quels sont-ils et qu'est-ce que la découverte, la connaissance de ces documents a pu modifier votre connaissance de ces deux artistes? Qui veut répondre?
On peut parler de la correspondance entre Reynaldo Hahn et le pianiste Édouard Hissler, qui est très importante, d'autant plus
qu'ils se sont connus au conservatoire.
Ils se sont connus au conservatoire et ils se sont très vite devenus amis. Et Hissler a fait de longs séjours en Allemagne pour étudier auprès de pianistes allemands et comme répétiteur à Bayreuth également. Et évidemment, Hahn s'épanche auprès de Hissler. C'est auprès de lui qu'il raconte ses états d'âme et les questions esthétiques qui le tourmentent. Mm-hmm. Et par là même, celles que Proust lui pose aussi.
Et cette correspondance, on la connaissait peu ou mal ou de façon incomplète?
Disons qu'elle n'est pas éditée pour l'instant. Ouais. Elle est conservée à la Bibliothèque nationale. Elle commence à être exploitée, mais elle est très abondante. Elle mériterait sans doute un jour une édition complète.
Mm-hmm. Et il y a aussi alors tout l'ensemble de la correspondance de Reynaldo Hahn avec celle dont on appelait les Dames le Maire, qui désigne non seulement Madame le Maire, mais sa fille Suzette qui joue un rôle assez important. Et là, on voit tout à fait ce milieu à réveillon, ce qui était en train de se passer, la façon dont les bizarreries de Proust étaient un petit peu perçues. Mais il ne faut pas oublier que c'est à réveillon que Reynaldo Hahn a compris au fond qui était Proust, avec cette anecdote qu'il raconte lorsqu'il faisait le tour du parc de réveillon. Et qu'il a vu le jeune Proust s'immobiliser devant un rosier du Bengale. Il a fait le tour du parc, lui tout seul, et quand il est revenu, il a parfaitement perçu que Proust savait qu'il était là, mais il était comme hypnotisé sur ses fleurs, comme le sera le héros de Proust devant la haie d'aubépine à Combray.
Christina Ariano interprétait de Reynaldo Hahn un extrait de Portrait de peintre. Anton von Dyck, Jean-Christophe Branger, pouvez-vous nous dire quel est ce cycle de Portrait de peintre de Reynaldo Hahn?
Alors c'est un cycle, c'est une des rares collaborations entre Proust et Hahn.
C'est intéressant.
Où effectivement il s'agit, alors on n'est pas très sûr, Philippe pourra en parler, si ce sont des poèmes de Proust à déclamer sur la musique ou qui s'intercalent entre la musique.
Il y en a quatre portraits,
voilà,
c'est ça.
Voilà, exactement. Et cette partition est composée un petit peu sous le regard de Massenet également à cette époque-là. Massenet étant très intéressé par les déclamations parlées accompagnées. Mm-hmm. Donc là, on voit encore une relation entre les deux compositeurs.
Ouais. Et vous consacrez un large chapitre dans cette étude que vous avez rédigée tous les trois sur Massenet et son influence, évidemment, donc sur Reynaldo Hahn, mais également comment l'aîné a pu avoir aussi une influence sur les deux jeunes artistes. Alors.
Exactement. En fait, on a réussi à mettre à jour dernièrement que Proust, Hahn et Massenet se connaissaient très bien, que Massenet allait à l'Opéra Comique avec Proust et Hahn, ainsi que l'épouse de Massenet, enfin ils allaient ensemble.
Et ça, on ne le savait pas
On ne le savait pas du tout, et c'est grâce à des lettres qu'on a réussi à mettre à jour cette relation, et la place, en fait, de Massenet dans l'œuvre de Proust, qui a été sous-estimée, à mon sens, pendant très longtemps. pour des raisons X, Y.
Oui, vous dites qu'en général, dans les dictionnaires, tout
Oui, il y a Françoise Le Riche qui avait repéré effectivement que Massenet jouait un rôle peut-être beaucoup plus important qu'on le supposait.
Et vous supposez même que la silhouette de Massenet peut apparaître dans quelques personnages de Proust.
C'est très clair. Il apparaît dans Sodome et Gomorre. Et on a cherché pendant très longtemps les spécialistes de Proust, imaginer que c'était Fauré. Bon, quand j'ai lu le texte, moi, c'était évident que c'était Massenet qui était là. Et ce qui m'a beaucoup troublé, en fait, et c'est tout le travail que j'ai pu faire dans ce livre, et que j'espère apporter quelque chose vraiment de novateur, c'est que Massenet, en fait, traverse la recherche de façon assez récurrente, de façon explicite ou implicite. Et en fait, en me familiarisant avec le style de Proust, ou quand Proust parle de Massenet, j'ai pu mettre à jour qu'en fait, que la première occurrence de la sonate de Vinteuil, un des modèles, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs modèles pour cette fameuse sonate, mais la première occurrence, c'est le clair de lune du Werther de Massenet.
On en reparlera tout à l'heure. Très bien, merci Jean-Christophe Bonger. Luc Fraisse, le titre de cet ouvrage, dont vous l'avez écrit à six mains, mais le titre, c'est quand même une création à quatre mains. Alors, expliquez-nous.
Oui. L'origine, c'est en visitant, il y a longtemps, le musée Victor Hugo, place des Vosges, où l'on voit un guéridon extraordinairement petit, divisé en quatre compartiments, et sur cette table, dit-on, Victor Hugo, avec trois de ses contemporains, genre Georges Sand, Dumas, ont écrit chacun une œuvre. Et ce que met en scène cette table, c'est une chose qui en principe n'arrive pas. S'il y a quelque chose qui est solitaire, c'est la création, c'est un laboratoire. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans la période très commune entre Proust et Reynaldo Hahn, ces deux artistes étaient chacun à une table, et pendant que l'un remplissait des partitions de musique, l'autre noircissait des feuilles de papier. Et donc je crois que c'est un cas tout à fait unique dans ce domaine, avec des échanges verbaux qui hélas sont perdu, il n'y a pas eu de bande enregistreuse, et qui était fondée aussi sur des conflits, il ne faut pas se le cacher. Cela dit, notre livre ne porte pas que sur ces deux premières années, parce que justement, il y aura ensuite en sourdine des effets de rebondissement, et en fait, grâce à quoi Reynaldo Hahn influencera beaucoup l'écriture de La recherche du temps perdu, la confection du personnage de Vinteuil qui vient d'être évoqué, et bien d'autres passages d'esthétique dans La recherche du temps perdu 15 ans plus tard, n'est-ce pas?
Si tu veux, Mignonne de Jules Massenet, interprété par Reynaldo Hahn, qui chante et qui s'accompagne au piano, un enregistrement qui date de 1927. Jean-Christophe Branger, on parlait de Massenet, qui accompagnait donc les deux jeunes, Hahn et Proust. Comment les deux percevaient-ils cet aîné? Est-ce qu'ils étaient de la même façon? Est-ce qu'il y avait des divergences entre la façon
Il est très clair que maître. Pardon. Il est très clair que Hahn avait une passion pour Massenet, ouais. Et vraiment presque démesurée, on pourrait dire. Et Proust, c'est beaucoup plus ambigu. Il y a vraiment, c'est le titre de mon article, hein, les intermittences massenettiennes, c'est-à-dire qu'il est à la fois attiré par cette musique qui le charme, mais ce charme le dérange. C'est-à-dire que Massenet est un peu l'antithèse de Beethoven ou de Wagner qu'il vénère. Il est à la fois attiré par cette musique, mais qu'il considère facile, et en même temps, il est perturbé par le plaisir qu'il en ressent. Et c'est quelque chose qui le gêne. Mais il n'est pas le seul, hein. Tchaïkovski, Freud, enfin, sont des personnes qui ont eu un rapport à la musique et au charme que peut dégager une musique sans qu'on puisse comprendre pourquoi on est ému et pourquoi on est touché, qui pose problème à certains. Et dans le cas de Proust, c'est très clair que c'est exactement ça. Il est à la fois attiré par Massenet comme il peut le rejeter.
Mais à vous croire, il aura quand même une influence suffisamment forte pour être peut-être une des mélodies qui aura pu être...
C'est l'apparition du clair de lune, exactement. Ouais. C'est-à-dire, d'Anverter, parce que dans la recherche, quand le narrateur entend la sonate de Vinteuil, c'est par petites tranches, et l'apparition du clair de lune dans le Werther de Massenet se produit exactement de cette façon-là.
Donc on réécoutera, je pense, Werther avec une autre oreille prochainement. Luc Fraisse, j'ai parlé d'influence, mais il y avait aussi ça apparaît clairement à la lecture de votre étude, des divergences esthétiques entre Proust et Reynaldo Hahn. Quelles étaient-elles?
Alors, ils ne se sont pas brouillés pour cela, mais ils discutaient très vivement. Il faut rappeler que Reynaldo Hahn était un grand admirateur de Sainte-Beuve, à la fois convaincu qu'on ne comprenait les compositeurs que quand on étudiait le détail de leur vie, et il pensait aussi que Sainte-Beuve écrivait admirablement bien. Et Proust était totalement opposé à ces deux opinions. De façon générale, Proust est un théoricien, un philosophe, et Reynaldo Hahn pensait que l'abstraction n'était pas le secret de l'art, mais la sensibilité vive et spontanée. En revanche, il y a une admirable rencontre entre eux, qui est le fait que la longue phrase de Proust et Reynaldo Hahn pensaient qu'il fallait chanter d'une seule émission de voix, et on ne saurait dire combien la conception que se faisait Reynaldo Hahn du chant influence le rythme de la phrase de Proust et jusqu'aux particularités de sa ponctuation.
Et pour terminer, Philippe Blais, en quelques mots, sur cette relation entre Hahn et Proust, vous qui connaissez donc si bien Reynaldo Hahn, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que Proust a pu apporter à Hahn dans sa vie de compositeur, de musicien?
Je crois que, en fait, ils n'ont pas du tout la même conception de la musique. Proust a une conception assez mystique. Qui évoluera vers l'individualisme. En fait, Proust est à la recherche, à travers la musique, de la patrie perdue de l'artiste. Hahn, lui, recherche l'expression des sentiments humains. Il parle, lui, au contraire, des particularités cachées du musicien, c'est-à-dire de sa manière à lui d'exprimer les sentiments.
Très bien, merci beaucoup messieurs. Je rappelle le titre de votre passionnant ouvrage, Marcel Proust et Reynaldo Hahn, une création à quatre mains chez Classique Garnier, signé Philippe Blais, Jean-Christophe Branger et Luc Fraisse. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Philippe Mercher, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.